Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Géraud et vous êtes actuellement sur le podcast de Dr Love, le service d'accompagnement pour célibataires que j'ai fondé. Dans ce podcast, je parle d'amour à l'heure des apps de dating, seul ou avec des experts, et avec une ambition, vous donner les clés pour vivre l'émotion ultime qu'est l'amour. En espérant que ça vous plaise et surtout que ça vous aide, bonne écoute. Je vous propose aujourd'hui un nouveau format, les anecdates. Derrière ce petit jeu de mots se cache une idée simple. Raconter des anecdotes sur des dates qui n'ont pas été des succès. Et pour chacune de ces anecdotes, nous vous proposerons une analyse et des solutions clés en main pour éviter que cela vous arrive ou se reproduise. Et je dis « nous » car je ne serai pas seul. Je serai avec Clément, coach comme moi et ami, que j'avais déjà invité dans un de mes podcasts. Nous avons imaginé ce concept tous les deux. Nous allons raconter chacun trois anecdotes. Deux concernant des clients que nous accompagnons, tout sera bien évidemment totalement anonymisé, et une nous concernant personnellement. Dans mon cas, je raconte comment j'ai failli faire capoter mon histoire avec Agathe au tout début de notre relation. Dites-moi en retour si ce format vous plaît, nous ferons peut-être un épisode 2. Bonne écoute.
Salut Clément.
Salut Antoine, comment tu vas?
Bah écoute, en pleine forme, et toi?
Bah ouais, ravi de pouvoir encore une fois échanger avec toi sur des sujets qui vont arriver, qui vont être très sympas, je pense.
Ouais, absolument. Mais je voulais te le dire aussi. Moi, je suis ravi de pouvoir faire ce premier épisode des anecdotes avec toi. Donc, ce petit concept auquel on a réfléchi tous les deux. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, tu avais déjà participé au premier épisode de ma chaîne Spotify. Et ça avait beaucoup plu. On avait kiffé aussi derrière, discuter tous les deux. Donc, on a réfléchi à ce format qui nous est venu assez naturellement et qu'on pense qu'il va être sympa.
Oui, complètement. Bah non, c'était l'occasion aussi de pouvoir partager moi ce format à ma communauté sur YouTube notamment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se filme aussi et c'est en vidéo. Et
c'est du co-hosting, comme on dit.
Exactement. je te propose de commencer avec une petite histoire que j'ai préparée d'une de mes clientes.
Je t'écoute.
C'est parti. Alors... moi, je vais commencer avec une de mes clientes qui a commencé à fréquenter un homme qu'elle avait rencontré sur une application. Moi, j'aide mes clientes majoritairement à utiliser les applications de rencontre et à trouver un homme sérieux dessus. Donc, elle a rencontré un homme qui lui plaisait. Ils ont commencé à se fréquenter. Et puis, ça se passait.
Quelle génération environ? Quel âge?
Alors, mes clientes, elles ont plus de 50 ans pour la plupart. On va dire entre 40 et 65. Mais cette dame-là a de la cinquantaine.
Okay.
Et du coup, elle a fait des rencontres sur Bumble et elle a rencontré cet homme-là dans sa région, juste à côté de chez elle. Elle n'habite pas dans un milieu urbain, donc c'était un peu difficile pour elle des fois de rencontrer des profils qui étaient quali, on va dire, dans sa région. Mais les applications aident beaucoup dans ce genre de moment. Donc, elle a fait la rencontre de cet homme-là, ça se passait bien. Il n'y avait pas trop de signaux négatifs, de signaux d'alerte. Elle l'a fréquenté une à deux fois par semaine, ils se sont vus petit à petit et de plus en plus, mais elle s'est rendue compte qu'il parlait un peu de son ex et il parlait de son ex assez souvent. Et en fait, plus elle a creusé, plus l'ex prenait une place importante en fait dans les discussions et aussi dans la vie de ce monsieur-là. Et donc, elle s'est rendue compte au début qu'il échangeait toujours avec son ex, de manière platonique, mais qu'il échangeait avec son ex pour des choses assez logistiques, on va dire. Des fois, il allait lui acheter un truc, lui faire ses courses. Des fois, en fait, elle l'aidait aussi avec ses papiers perso, parce qu'il n'était pas très porté administration, et du coup, c'était l'ex qui avait dû faire ça auparavant. Ça faisait quand même
la fameuse phobie administrative. Et ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble?
Ça faisait 2 ans qu'ils s'étaient séparés. Et ils sont restés plus de 5 années, je crois, ensemble avec l'ex.
Ouais, ok.
L'ex habite pas loin non plus. Et donc, elle commence à essayer, ma cliente, de mesurer à quel point l'ex est présente. Et elle se rend compte qu'en fait, il va carrément lui faire les courses presque toutes les semaines. C'est-à-dire, elle lui a acheté sa boîte d'œufs au marché et elle lui a ramené chez elle. Enfin, chez l'ex. Et donc là, ma cliente, elle se dit, bon, il y a quand même un problème. Ma cliente, elle n'est pas du style à vouloir ramener le sujet sur la table de manière frontale parce qu'elle a peur que de la réponse, de la réaction, de ce qu'il va dire. Et du coup, elle gardait ça un peu pour elle. jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, enfin, que ce monsieur lui dise que donc son ex va partir une semaine en vacances et que il va devoir garder la maison de son ex pendant une semaine. Donc là, on arrive à encore une étape au-dessus. Sauf que du coup, pendant cette semaine, ma cliente et ce monsieur avaient prévu de se voir. Du coup, ils sont allés au restaurant et il lui a demandé, même avant donc ce fameux rendez-vous au restaurant, si elle voulait profiter du jacuzzi chez son ex.
Mais non.
Et là, on est arrivé, on passe à un stade de
culot. Ça devient malsain, là,
qui est assez haut. Et donc, elle lui a dit non. Elle m'a demandé mes conseils aussi, ce que je vois, enfin, comment je voyais la situation. Moi, je l'ai vraiment alerté. Et surtout, je lui ai dit qu'il fallait avoir une conversation avec lui pour clarifier la chose, mais aussi poser des limites. Malheureusement, ma cliente, après être allée au resto avec lui, a fini par accepter d'aller chez son ex le soir et a passé la nuit chez l'ex. Et elle s'est, en fait, devant un peu la proposition du monsieur en lui disant mais viens ce soir, c'est pas très grave, on passe juste la nuit ensemble, c'est ça le plus important, elle a accepté et elle a quand même passé la nuit chez l'ex quoi. Et donc on est arrivé pour elle avait dépassé une de ses limites et dans le coaching suivant elle me l'a dit, elle se sentait pas très bien par rapport à ça, mais en fait on s'est rendu compte que c'était une problématique qui lui était arrivée assez souvent dans ses vies précédentes, dans ses relations précédentes pardon. Et moi, mon travail, tout mon travail avec elle, c'est d'essayer de créer ce cadre où elle va devoir imposer des limites à la personne qu'elle est en face d'elle, ne pas avoir peur de lui expliquer, d'avoir ces conversations et aussi utiliser ces conversations pour ne pas être dans une position à demander, mais d'être dans une position comme un recruteur qui va observer comment la personne va réagir en fonction de
la responsabiliser,
de la mise en
place de limites, quoi. Ouais,
exactement.
Exactement.
Exactement. Donc, elle a eu une conversation avec lui pour déjà définir leur relation. Apparemment, il était toujours certain de vouloir s'engager avec elle et que ça soit une relation exclusive. Enfin, toujours certain. Il l'a vraiment exprimé pour la première fois, donc après avoir défini la relation. Mais elle a toujours peur de parler de l'ex. Elle ne l'a pas fait. Et donc, ça va être son travail pour les prochaines semaines. Donc, on avance bout à bout, mais on se rend compte que des fois, c'est ni tout noir ni tout blanc, et il y a toujours une zone grise qui fait que nous, à mon avis, on est notre aide est essentielle à ce niveau-là. Essayer de les faire naviguer à travers ces histoires.
C'est hyper intéressant et c'est un sujet en effet très fréquent. Je trouve un peu plus du côté des femmes, mais ça arrive aussi du côté des hommes, ce fameux verbaliser sa limite. D'ailleurs, j'en parlerai dans ma dernière anecdote. Dans mon cas personnel, ça m'est aussi arrivé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc qu'on observe énormément. Et alors, et ce que je voulais aussi dire à un moment, c'est que comme elle a posé une limite à un moment, mais elle est quand même allée chez l'ex avec son mec. Il faut aussi se dire que l'homme ou même la femme, enfin la personne en tout cas qui est en face, qui voit que la personne dépasse ses limites, mais enfin fixe une limite mais les dépasse. Il faut se dire que la personne va se dire quand même, mais elle dit pas ce qu'elle fait, quoi. Enfin, elle dit pas ce qu'elle fait pas ce qu'elle dit plutôt.
Ouais. L'intégrité, quoi, c'est essentiel. Je suis d'accord.
Ça a un impact sur l'autre et sur la vision de l'autre, quoi, sur la perception qu'il va avoir de la personne, qui se dit, ok, bon, ben, si c'est une personne un peu manipulatrice, il pourrait dire, ok, c'est bon, j'arrive à faire ce que je veux d'elle. Si c'est une personne plus bienveillante, ça peut être une réaction tout à fait différente. Mais ouais. Ok. Et donc là, vous allez avoir une prochaine session pour justement parler du sujet de l'ex, c'est ça?
Exact. Donc, la difficulté, c'est que donc définir la relation, c'est, on va dire, un atelier que je fais constamment avec mes clientes au bout d'une certaine semaine pour qu'elles arrivent à poser, du coup, ce cadre, ce qu'elles cherchent dans la relation et où elles veulent aller, mais aussi ce qu'elles ne veulent pas. Et forcément, l'ex, du coup, là, par rapport à cette histoire, s'intègre à cette discussion. Mais en général, le problème, c'est que mes clientes ont très peur d'apporter le sujet sur la table. Et ça se fait sur plusieurs séances. Et on y va des fois bout à bout. Mais en tout cas, c'est essentiel, ouais. De maintenant,
ouais, c'est ce que
j'observe là-dessus, quoi.
C'est ce que j'observe aussi, c'est que c'est un point aussi que je vais souvent explorer, aborder pendant les sessions avec mes clients ou mes clientes. Et dans la théorie, tout le monde comprend qu'il faut avoir une discussion de ce style, tu vois, parler de l'ex parce que c'est un sujet problématique. Mais dans la pratique, j'observe souvent aussi que les personnes vont repousser l'échéance. Voilà, par moments, quitte à ne jamais le faire d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu conseilles, toi, dans ces moments-là, quand ces femmes, elles repoussent cette
Ouais,
échéance,
là, alors.
cette discussion?
Très rapide anecdote du coup, mais qui est pas prévu. Mais je vais prendre deux cas d'une cliente. Enfin, ce sont deux femmes en l'occurrence qui ont à peu près le même sujet, mais c'est vraiment, on va dire, aborder un sujet qu'elles estiment être problématique. En tout cas, c'est leur vérité à elles, c'est-à-dire qu'elles ont un ressenti négatif à un certain sujet. J'en ai une où on a mis en place quelque chose d'extrêmement clair. On a écrit un message ensemble pour qu'elle puisse l'exprimer par message, parce que tu contrôles un peu les mots que tu mets, etc. Elle a fait directement. Et une autre pour qui j'ai fait le même truc, mais elle n'a jamais fait. Et donc, elle revient chez moi, elle revient me voir une fois par semaine. Et à chaque fois, en fait, la situation n'a pas bougé. Et j'observe que consciemment ou inconsciemment, elle trouve des stratégies d'évitement pour ne pas le faire. Quitte, elle est à un moment, l'idée de se dire, ah, mais laisse. En fait, c'est peut-être pas le bon, je vais laisser tomber. Et là, donc là, moi, ça faisait déjà quatre sessions où j'avais l'impression de dire pareil. Donc moi, là, je me mets dans une posture un peu plus écoutez, soit vous le faites, soit vous revenez me voir quand vous l'aurez fait. Mais il y a un moment où je pense qu'il faut faire preuve d'un tout petit peu de fermeté. Sinon, c'est le risque aussi que la personne qu'on accompagne rentre dans une histoire en fait qui va peut-être qui apporte du bonheur court terme mais fasse du mal à moyen terme voire à long terme. Donc je pense que par moment il faut être main de fer dans un gant de velours nous les coachs.
C'est ce que tu as mentionné, c'est vraiment enfin, ça m'est arrivé aussi. C'est d'ailleurs un des mêmes conseils à peu près que je lui ai donné. Alors, je lui ai dit, si tu n'arrives pas à exprimer avec des mots naturellement sur le moment, écris une lettre et apporte la lettre papier. C'est une alternative au message digital pour qu'au moins ça se fasse en vrai. Mais au moins, les mots seront posés, tu auras réfléchi et. Il y aura juste l'acte de donner la lettre qui sera difficile à faire, mais moins de réfléchir à ce que tu vas dire sur le moment même, quoi.
Exact. Et je suis totalement d'accord. Je pense que je trouve l'idée de la lettre d'ailleurs hyper marrante. J'y avais jamais pensé. Et moi, ce que je dis, c'est souvent en fait la forme va peu importer, c'est le fond qui va compter. Donc que ce soit par SMS, mail, face à face, il faut un moment, il faut dire les choses. Et je
Complètement.
trouve que et moi, ce que je dis en plus quand tu l'écris, c'est que en fait, ça peut être un moyen de planter le sujet, mais pour ensuite continuer la discussion. Face à face. Parce que ce genre de discussion, en vérité, c'est pas juste un moment de 15 minutes ou de 20 minutes, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines. Ce type de discussion où, après une discussion, par un moment, on va réfléchir et on va se dire, attends, mais ça, c'est pas clair, donc on va y retourner. Et il faut pas avoir peur de tout ça, quoi.
Ouais, complètement. Après, sur le message, enfin, je suis d'accord avec toi, mieux vaut l'action que l'inaction, quoi qu'il se passe. Mais moi, alors, en petite anecdote personnelle sur le message, ça m'est arrivé une fois. D'essayer de définir la relation avec une fille avec qui je sortais à l'époque où j'habitais au Québec. Et ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble. Et là-bas, la culture de la rencontre est encore différente. Mais je
Oui,
lui avais demandé
plus
par.
anglo-saxonne.
Ouais, ils sont plus dans la relation libre au début et ils finissent par être exclusifs au bout d'un certain nombre de mois, on va dire. Et quand je lui envoie ce message pour lui demander, bon, bah, mais qu'est-ce qu'on est en fait? Et qu'elle me répond du tac au
Le
tac, bah en fait
latin,
non, quoi.
le latin qui parle à un anglo-saxon, quoi.
Exact. Et honnêtement, et quand elle me dit justement que à ce moment-là, bah non, elle n'a pas du tout envie de s'engager, ça a été assez douloureux de ne pas pouvoir comprendre par son visage, son non-verbal, par la réalité, juste par le digital, du coup, pourquoi, tu vois. Même si dans le fond, la réponse était toujours la même. Mais.
Ben, entièrement. C'est pour ça que, sachant que 80% de ce qu'on va analyser quand on parle à une personne, c'est le non-verbal. Quand on n'a que des mots, on peut aussi surinterpréter, etc. C'est pour ça, moi, je pense que le message peut être écrit, peut être une amorce,
Ouais,
mais
exact.
ça doit pas être. Toute la discussion doit pas se faire là, sauf quand on se connaît très bien. Moi, aujourd'hui, par exemple, avec ma copine, quand on a des sujets de conflit, on a trouvé une méthode de discussion qui est le message. Parce que moi, j'ai pu avoir tendance rapidement m'emporter, et elle, au contraire, face à ça, elle va avoir tendance à se fermer.
Okay.
Donc, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Donc là, on rentre dans des... Mais dans un format de couple où tu te connais bien, en tout cas, nous, ça fonctionne, le
Ok,
message,
ok.
la discussion par message. Mais qui souvent, en
Alors,
effet, est complétée par une discussion face à face, quoi.
ouais. En revenant juste à ça, de toute façon, dans tous les cas, c'est définir la relation, c'est jamais une négociation. C'est juste une question que tu dois poser et pour vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Après, on va pas rentrer dans des stratégies de séduction slash manipulation à ce niveau-là de la rencontre, quoi.
Si en tout cas ça se produit, ça a de grands risques de faire capoter l'histoire. Après, en effet, c'est pas de la négo, mais je pense qu'il y a quand même, il y a l'idée, moi je dis ça, alors ça, le comparatif peut être étonnant, mais il y a l'idée de rédiger quand même un contrat, quoi. Mais qui peut s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années, cette rédaction tacite et invisible. Mais il y a l'idée en tout cas de trouver des compromis sur certains points, en fait. Pour moi, c'est de s'ajuster, hein,
Ouais, non, mais très bon point. Ça différencie la négo dans le sens, tu vas pas lui dire, tu vas pas essayer de forcer à vouloir s'engager. Mais par contre, s'il veut s'engager, tu vas mettre les termes de l'engagement avec lui, limite sur papier, pendant cette discussion.
Exactement. Ok, bah écoute, super intéressant. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on va avoir toujours un peu ce cadre, c'est-à-dire on va raconter une anecdote et ensuite on va la déconstruire, l'analyser et puis débattre un peu comme on vient de le faire.
On a envie d'entendre ta prochaine histoire, enfin ta première.
et donc, je vais y aller. Donc, je vais raconter l'anecdote d'une de mes clientes que pour le coup j'ai renommée Estelle. Alors, c'est une personne qui a la trentaine et dont l'objectif est de construire un couple durable. Okay, je campe le décor. Récemment, elle a eu un match avec un homme sur une application. Sur les photos, son profil, première impression, charmant, avenant, souriant, regard franc, aucune ombre au tableau. Dans la discussion, très proactif, impliqué, motivé, séducteur, mais à ce stade-là, pas d'ombre au tableau non plus. Rapidement, il propose l'organisation d'une première rencontre. Très bien. Il propose d'aller dîner dans un restaurant, mais sans donner d'infos sur ce restaurant. En gros, ni le lieu, ni l'adresse, etc. Estelle, elle va accepter. Par la suite, une fois qu'ils sont mis d'accord sur l'heure et la date, il propose à Estelle de venir la chercher en voiture pour l'amener au restaurant. Estelle accepte. À ce moment-là, Estelle, elle se dit que le mec est chouette. Le mec, il vient la chercher en voiture, il organise le truc, il est charmant, il est
Gentlemen.
proactif, gentleman. Il arrive en voiture pour la chercher. Première impression visuelle, quand elle le voit, tout se confirme. Puis, dans la voiture, à un moment, il va dire: Ah, au fait, le restaurant n'a pas pris la résa, donc je t'emmène ailleurs. T'inquiète pas, c'est une surprise, je m'occupe de tout. Là, Estelle, elle commence à se sentir embarrassée, mais elle dit rien. Finalement, ils arrivent dans un bar, a priori classique. Je dis a priori car au final, c'était un club échangiste. Et à ce moment-là, Estelle, bah, sent en elle monter une angoisse, une anxiété super forte. Mais elle dit toujours rien. Ou pas de manière très claire. En gros, elle va exprimer son malaise par l'envoi de signaux. Exemple, elle qui normalement boit de l'alcool, là, elle a dit non, je prends du Perrier. Refus de prendre de l'alcool, tu vois, pour montrer un désaccord. Mais pas extrêmement clair non plus. Au final, elle va rester avec lui pendant 2 heures à discuter. Alors sur la terrasse, je le précise, de ce club, mais pas à l'intérieur. Elle n'a jamais mis les pieds à l'intérieur. Elle n'a pas vu les hommes tout nus, quoi. Bon, pendant le rendez-vous, en fait, il semble très à l'écoute. Il lui demande très souvent si ça va, comment elle se sent. Elle a dit que pas ouf, mais ça reste, il n'en fait rien de cette information-là, tu vois. Il dit, mais t'inquiète pas, ça va se passer, ça va bien se passer, etc. Ensuite, il la raccompagne chez elle, toujours en voiture. Elle, là, elle se sent toujours pas bien, voire de plus en plus. Par la suite, quand elle est rentrée chez elle, là, Estelle, elle a compris que ça l'avait vraiment bouleversée, émotionnellement. Ensuite, il a continué à échanger avec elle par message. Il lui a proposé une deuxième rencontre. Et à ce moment-là, elle a dit OK, mais dans un cadre différent. OK? Fin de l'histoire. Petite précision, cette histoire, elle s'est déroulée pendant mon accompagnement, mais moi, je n'ai pas été au courant de cette histoire. J'ai été au courant uniquement après les faits.
OK?
Donc, conseiller au téléphone, ensuite, pour débriefer ça, on a pris un moment, mais vraiment assez long, pour parler que de ça. Et moi, je me suis permis de spotter, entre guillemets, des erreurs. Alors, vous allez voir, pour moi, à aucun moment, il faut justement se flageller, s'auto-flageller de faire des erreurs. Comme on le disait en préparant ça, on a plutôt, toi et moi, Clément, une vision un peu, entre guillemets, américaine de l'erreur. C'est-à-dire, on apprend aussi en faisant des erreurs et il ne faut pas s'auto-flageller, quoi. Mais en tout cas, voilà les petits points que j'avais repérés, moi. Première erreur, selon moi, c'était d'avoir accepté un dîner dans un restaurant sans connaître le lieu et le nom. Je pense que, enfin, j'en suis même persuadé, un premier date, on doit être dans un lieu qu'on puisse spotter à l'avance, un terrain neutre. Enfin, on ne doit pas aller à un endroit qu'on ne connaît pas. Deuxième, ou qu'on n'a pas pu repérer. Deuxième erreur, selon moi, c'est d'avoir accepté qu'ils viennent la chercher en voiture. À ce stade, avec une personne qu'on ne connaît pas, on veut être totalement autonome dans nos mouvements. Voilà, il faut pas. Troisième point, ça a été de ne pas avoir tout de suite posé clairement sa limite. C'est-à-dire, moi, je veux construire un couple durable, j'ai rien à foutre dans un club échangiste. Donc, dès que cette limite avait été dépassée. Et au contraire, elle a pris sur soi. Elle a pris sur elle. Et on en parlait, ça fait écho à ton anecdote de juste avant. Quatrième erreur pour moi, mais elles s'enchaînent toutes en fait. Avoir continué de discuter avec lui par la suite. Et d'avoir même quasiment accepté un second date. Et la cinquième, pour moi, c'était parce qu'elle m'a dit a posteriori qu'elle avait ressenti des signaux négatifs dès la discussion. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me parler, me le partager? Elle m'a dit, je ne voulais pas vous déranger. Et donc, moi, pour moi, la cinquième erreur, c'est de dire de ne pas avoir utilisé son coach. Ouais. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que cette personne-là, elle a eu une réaction qui, quand même, a été. Par la suite, une fois qu'on a discuté, on a un peu tout recadré. Moi, ce que je lui ai dit, c'est. Il faut, cet homme, j'en suis pas persuadé, mais je pense que ce mec, et c'est une technique qu'il a mis en place, qu'il a dû déjà faire, le truc de hall, resto, la resa, bullshit, je pense. J'aurais dit, moi, grosse tendance manipulatrice, cette personne, et ouais, ça sent très mauvais. Mais bon, à la limite, on va pas le juger lui, on va juger personne d'ailleurs, mais l'idée, c'est de voir comment nous-mêmes, on peut éviter ce genre de scénario. Donc, avec ce que je viens de dire. Et donc, nous, comment on a terminé la suite, c'est, j'ai dit à Estelle, il faut que je fasse très attention de ne pas dire son vrai prénom, parce que Estelle, je lui ai dit, bah là, il faut mettre un point final à cette histoire, mais le premier truc ultra important, ça va être, il n'est jamais trop tard de dire ses ressentis, la limite qui a été franchie, le responsabiliser là-dessus, quoi. Ouais. Et donc, on a rédigé ensemble un message, où elle a pu exprimer calmement toutes ces émotions-là. Okay. Et en retour, lui a envoyé un smiley qui pleure de rire, un truc comme ça.
Ah oui.
Voilà, donc on a voulu le responsabiliser. Le mec ne s'est pas du tout responsabilisé. Donc maintenant, on s'est dit, OK, on prend 2-3 jours mini-break, on prend du recul sur cette histoire, on laisse les émotions retomber un peu, on en tire des apprentissages, on ne s'auto-flagelle pas. Et on repart plus fort parce que justement, pour moi, l'erreur ultime à éviter, ce qui est très classique, c'est après ce genre d'événement très déceptif sur une application de rencontre, le réflexe de 80% des personnes, c'est se dire les apps, c'est de la merde. Les hommes, c'est tous des... Hein, et je me recroqueville sur moi, je ne fais plus de rencontres pendant 6 mois. Et ouais. On se crée une carapace énorme. Donc, pour moi, ça, c'est une fausse bonne solution. Il faut plutôt... avoir une analyse rétroactive de ce qui a été fait pour voir, en fait, dès le début, on aurait pu éviter ça. C'est-à-dire dire, écoute, non, moi, je vais dans un restaurant, je connais le nom, je connais le truc. Et là, déjà, tout se serait décanté parce qu'il aurait été certainement piégé. Il aurait dit, mais en fait, c'est un club échangiste. Et là, tu dis, ben non, en fait.
Ouais,
ou bien lui, il s'adapte. Et pourquoi pas, tu vois, même si je n'y crois pas une seule seconde dans son cas.
Ouais, complètement. J'ai une question, juste pour être sûr d'avoir compris, est-ce qu'elle l'a vu une deuxième fois ou elle l'a vu qu'une fois du coup?
Non, mais
Ok.
je ne sais pas si elle allait le faire, mais en tout cas, elle était dans un format où elle s'adaptait pas mal, quoi. Lui
Ok, ouais.
était très proactif et elle était, je pense qu'elle était à deux doigts de peut-être le revoir, mais dans un cadre différent, ça, elle avait bien exprimé.
Ouais. Et elle t'a dit qu'elle s'était sentie comment après cette
Chamboulé,
expérience?
chamboulé, chamboulé. C'est une personne très calme, Estelle. Je dirais un peu introverti, donc qui vit les émotions voilà, vraiment de l'intérieur et qui les a pas exprimées. Et ce qui est bien, c'est que pendant notre rendez-vous, elle a pu vraiment tout exprimer de manière ultra mature, intelligente, donc respect à elle, quoi.
Ouais, ok. Ouais, c'est clair que c'est très difficile et je suis d'accord avec toi. Il faut surtout pas remettre la faute de ces histoires sur le moyen de la rencontre, c'est-à-dire les sites, parce que les sites de rencontre, c'est juste la réalité de la rencontre. C'est une histoire comme ça, elle peut arriver avec n'importe qui. Les manipulateurs, ils savent aussi bien faire en ligne que dans la vie réelle. Et ensuite, surtout pas remettre ça sur les hommes. Ça, le degré est encore au-dessus. Tous les hommes ne sont pas les mêmes, loin de là. Et bien sûr, ouais, pas se dire qu'au final on n'a pas de chance et pas remettre ça sur nous, ça serait vraiment la pire des choses en se disant que c'est de notre faute. Il y a des gens qui savent tellement bien faire. Et je trouve que c'est intéressant que tu as dit, quand tu as dit que ce gars-là avait surtout, enfin certainement déjà mis en place ce genre de procédé. Je trouve que c'est bien comprendre comment les hommes draguent en général, c'est que les hommes, au fur et à mesure d'échecs qu'ils ont dans la rencontre, forcément, on met tous en place des espèces de petits processus pour essayer de closer un date, on va dire, donc d'arriver ça peut être embrasser ou avoir l'accord de coucher avec une fille, parce qu'on marche comme ça, on marche par nous-mêmes par essai-erreur, et donc forcément, si un gars il sait aussi bien faire, c'est qu'il a une expérience dans le passé d'avoir fait ça avec plusieurs personnes, et je suis d'accord avec toi, c'est essentiel dans la rencontre ligne de savoir couper au plus tôt. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, le bon moment, c'est quand justement tu te rends compte dans la réalité que quelque chose ne va pas. Donc, comme tu as dit, hein, dès qu'il lui a dit que c'était un resto échangiste, c'est là où il fallait faire une grosse croix, prendre son courage à deux mains et dire non, je ne rentre pas là-dedans, quoi.
Après, ouais,
Euh...
exactement. Dans la voiture, je comprends qu'elle n'ait pas dit à ce moment-là parce que tu peux te sentir un peu,
ouais.
ben justement, mais d'où le fait de surtout pas se retrouver dans un lieu où t'as pas le contrôle, en fait,
Ouais, complètement.
avec une personne en qui t'as pas confiance à ce stade. Mais oui, au restaurant, en fait. Mais ça, c'est quelque chose que on en parle souvent. Beaucoup d'études en parlent et beaucoup de femmes viennent me le confirmer avec mes échanges, les échanges que j'ai avec elles. On retrouve quand même très souvent un réflexe naturel de pas faire de vagues les premiers dates ou les premières semaines. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus présent du côté des femmes. Et ça, vraiment, je pense qu'au contraire, il faut n'importe quand, en fait, dès le début, il faut tester ça, en fait, parce que c'est hyper important.
Ouais, complètement. Ouais, et puis il y a quelque chose de séduisant, faut aussi le dire, dans quelqu'un qui sait très facilement définir des limites, ça rend une personne beaucoup plus authentique quand on sait dire non à quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on ne veut pas faire, parce qu'en fait, ça montre les limites de notre personnalité et ça nous rend tranché. Et quand on est authentique, je trouve que l'authenticité en général, c'est le meilleur moyen de séduire quelqu'un.
Totalement. Et moi, je fais un parallèle souvent avec, tu sais, il y a pas mal d'études ou d'articles qui disent que les femmes ont beaucoup plus de mal à obtenir des promotions dans le cadre du travail, beaucoup plus de mal à négocier leur salaire que les hommes. Et je pense qu'il y a des caractéristiques communes avec cette difficulté en début de relation à pas commencer à négocier, mais en tout cas savoir dire, écoute, là, ça ne me va pas. Tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment c'est là aussi, je pense, où ça peut être très utile. Un coach, c'est de donner la force, l'énergie, de montrer aussi les bénéfices de ce type de comportement, quoi. Parce
Ouais,
que oui, sur
complètement.
le coup, c'est pas hyper agréable, mais après, on se sent super bien. Et puis surtout, la relation, en fait, si elle continue, elle a beaucoup de chances de bien se passer, quoi.
Ouais, complètement. Et puis c'est important rapidement de pouvoir éliminer ces personnes-là qui vont pas être faites pour construire
Exactement.
une relation long terme. Donc c'est en étant un peu frontal, osé, en montrant ce qu'on veut pas faire, qu'on va aussi rapidement écarter ces gens-là.
Ok. Tu nous racontes ta deuxième anecdote, Clément?
Allez, c'est parti. Alors, sur le thème des premiers rendez-vous, je me suis rendu compte que j'avais une cliente qui, de manière assez fréquente, quand elle faisait un premier rendez-vous, elle faisait un premier rendez-vous chez elle ou chez l'homme. Et donc là, on est encore dans un degré de, je vais pas dire de dangerosité, mais c'est vrai que c'est pas forcément safe de faire ça, mais au-delà de même se rencontrer chez l'un ou chez l'autre pour la première fois, c'est aussi ce que ça communique. Et donc je me suis rendu compte que cette cliente, elle, en ayant fait ça avec une première rencontre, elle a quand même fréquenté un homme pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec qui ça s'engageait bien. Mais on s'est rendu compte que au final, cet homme-là n'arrivait pas à s'engager. Parce que dans ses dernières relations, il n'avait pas réussi à s'engager, qu'il avait un peu les caractéristiques psychologiques de quelqu'un de clairement évitant. Et on s'est rendu. Donc, je lui ai fait faire l'exercice de définir la relation, et malheureusement, ça a bien clarifié ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il voulait pas s'engager. Il pensait lui-même ne pas le pouvoir s'engager parce que sa personnalité ne pouvait pas lui permettre de s'engager avec quelqu'un. Donc elle a recommencé à faire des rencontres, même si ça a été assez difficile de séparer, de couper les ponts, mais toujours avec des fois cette même envie de se voir pour une première fois chez l'un ou chez l'autre, soit par facilité, soit parce qu'on lui proposait, soit parce que je pense qu'elle-même savait aussi qu'il lui manquait un petit besoin affectif et que du coup c'était plus facile certainement des fois d'aller plus vite avec quelqu'un. Le problème, c'est que quand on fait ça avec un homme, quand on invite un homme directement chez soi, qu'on va directement chez lui pour la première fois, en langage homme, ce qu'on est en train d'exprimer, c'est je t'autorise à coucher avec moi ce soir. Un mec qui arrive chez vous pour la première fois, dans sa tête, il se dit, OK, ce soir, on couche ensemble. Et il se dit que si elle ne voudra pas coucher avec moi, c'est qu'il y a un problème, quoi. Sinon, pourquoi elle m'aurait invité? Pour lui, ça ira de soi. Le problème, donc, c'est qu'elle a refait ça avec d'autres gars
Juste
qu'elle
une
aime.
petite question. Elle a été dans un,
Dis-moi.
elle est vraiment dans un cadre de créer un couple durable, quoi.
Exact, ouais. Merci de me le demander. Pour préciser, 100% des clientes que j'accompagne sont dans une recherche de relations sérieuses, de construire une relation stable et durable. Et du coup, c'est le travail qu'on fait à chaque fois. C'est comment on fait pour maximiser les chances que dans le début d'une rencontre ou dans la rencontre en général, on trouve quelqu'un, un homme, qui veut lui aussi s'engager dans une relation stable et durable. Et donc, pour revenir à cette histoire, en gros, elle a réinvité une nouvelle rencontre avec qui elle venait à peine d'échanger par téléphone sur une application. Et ils ont passé le week-end ensemble. Il s'avère que cet homme-là était juste en vacances et qui voulait même lui s'engager dès les premières minutes avec elle. Donc là, je lui ai dit, oula, attention, parce que ça aussi, ça sent ce qu'on peut appeler le love bombers, l'homme qui envoie énormément d'amour dès les débuts d'une relation. Tout est tout feu, tout flamme, mais tout peut s'éteindre très rapidement. Et il s'avère que cet homme-là, en plus, habite à 500 km de différence de chez elle. Et là, je lui ai dit, maintenant, il faut faire attention, tu as un choix. C'est soit avoir le choix d'essayer de se fréquenter de temps en temps, parce qu'il voulait venir la revoir, mais en sachant que la probabilité que ça soit éphémère soit assez importante. Et d'un autre côté, savoir que si tu vas dans cette voie-là, tu vas t'occuper émotionnellement pendant un temps, mais du coup, tu auras moins d'énergie, à allouer à faire des rencontres qui seront plus sérieuses et stables d'un autre côté. Et c'est en général ce que je dis à mes clientes, c'est que la solitude et la douleur de la solitude est un des meilleurs moyens de motivation pour aller faire des rencontres et essayer de trouver quelqu'un qui soit en accord avec ce qu'on cherche. Donc c'est pour ça que souvent, surtout quand on est une femme, parce qu'on a accès à beaucoup d'hommes via les applis, mais on a facilement accès à du court terme, mais le long terme est plus difficile à avoir, c'est qu'il faut faire attention à pas tomber dans ce piège-là. De se dire que je peux utiliser du court terme en attendant de trouver le long terme. Parce qu'en général, ces histoires, elles nous dévient énormément de l'objectif principal.
Hyper intéressant aussi, je trouve. Et donc, elle a réussi à arrêter avec le mec là qui vivait à 500 km. Elle a réussi à...
Elle a réussi à couper. Et ça a été. Elle m'a dit, c'est grâce à ton pragmatisme dans les rencontres que j'arrive à faire ça. Parce qu'elle avait une vision pas du tout pragmatique, mais plutôt énergétique, on va dire. Elle suivait un
Émotionnel,
peu
ouais.
émotionnel, elle suivait ses intuitions, à ce qui se passait en elle. Mais des fois, nos intuitions,
Elles
il
peuvent
faut
être
pas vraiment
mauvaises.
les croire, parce que si on a un style d'attachement qui peut être un peu insécure, on peut confondre assez facilement l'amour avec juste l'activation de notre système d'attachement.
Absolument. Et c'est marrant parce que à un moment, tu dis qu'avec cette histoire où le mec vit à 500 km et on sait qu'il y a très peu de chances que ça amène à une relation durable, tu dis elle risque de dépenser pas mal d'énergie émotionnelle et en avoir moins pour les autres. Et moi, c'est un point dont je parle très souvent. Je parle de capital émotionnel.
Ouais, intéressant.
Je dis qu'on a tous un capital émotionnel quand on arrive sur les apps de dating et que on peut, il faut savoir le dépenser avec intelligence et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En fait, on peut trouver pas mal de parallèles avec le capital économique quand tu as de l'argent de côté. On dit souvent il faut répartir le risque, etc. Et je pense que surtout au stade virtuel, étant donné que ces liens sont extrêmement fragiles, que les apps de dating sont une jungle. C'est hyper important d'avoir une approche plus rationnelle, plus distante, de ne pas investir trop d'émotions à ce stade, d'essayer du moins, et d'y aller petit à petit quand le lien se solidifie un petit peu, quoi.
Ouais. C'est une très bonne comparaison. Et je fais souvent, je m'en souviendrai, capital émotionnel, c'est un truc que je réutiliserai parce que ça image très bien et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et c'est vrai que ça nous fait la comparaison entre le monde de l'entreprise et le monde de la rencontre. C'est que tous les deux, on vient du monde de l'entreprise à la base. Et on sait comme, en définitive, c'est assez similaire. Quand on cherche des clients, on cherche à se développer, on cherche à closer des contrats, le début de la rencontre et on va dire le développement d'un business peut être extrêmement similaire. Et ça demande d'avoir la tête froide, d'employer, comme tu l'as dit, d'être rationnel, d'être pragmatique, de savoir comment allouer ses ressources. Et d'investir sur les bons chevaux, entre guillemets. Donc,
Exactement,
ouais.
et totalement d'accord. Et il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter, qui vont se dire, ouah, mais c'est quoi cette vision ultra froide et rationnelle qu'ils ont? Moi, si une personne se pose cette question-là, je tiens à lui dire une chose, c'est que je pense que j'en suis même persuadé que l'émotion même de l'amour, cette émotion un peu ultime, a toujours été la même depuis la nuit des temps. Ce qui change, c'est l'accès à l'amour. Les moyens d'accéder à l'amour évoluent énormément, mais ça a toujours été très rationnel finalement l'accès à l'amour, hein. L'accès au couple, l'accès au mariage. À une époque, il y avait même ce qu'on appelait les mariages de raison, quoi de plus rationnel et économique que ça. Donc, il faut pas avoir peur de cette idée. Je pense qu'on est dans un pays avec une vision extrêmement romantique du couple, de ce... Ah putain, je l'ai croisée au détour d'une rue, elle a fait tomber mes bouquins, et puis là, on s'est relevé, on s'est regardé, et clac! Bon, ça, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, moi, jamais. Je
Très
pense que
rarement.
ce truc du coup de foudre, ça doit exister, mais déjà, ce n'est pas dit que ça fasse des histoires pérennes et dans le temps.
Ouais,
Et puis, je pense
d'accord.
surtout que c'est une minorité, quoi. Mais voilà, je voulais juste, parce que moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais j'entends des petites voix dans ma tête. En vérité, c'est des retours que j'ai souvent eus. Voilà, je pense que c'est important. Et en effet, nous, ce qu'on apporte, en tout cas, c'est un retour que j'ai beaucoup, c'est qu'on apporte une vision assez rationnelle. Et je compare souvent ça, à toi, au milieu d'entreprise. Et c'est vrai, moi, j'apporte une petite précision au monde du recrutement même.
Ouais, tout à fait.
Quand tu cherches un salarié ou une salariée pour un poste ultra important, du type bras droit, si au moindre CV, tu rentres le soir chez toi, au moindre CV qui est cool et tu commences à rêver, à te dire waouh, putain, je me projette déjà, cette personne va être parfaite, alors que t'as même pas commencé t'as pas fait le premier entretien, t'as pas négocié, t'as pas parlé du contrat, etc. Ben, le risque, c'est que dès que t'as la personne, tu vois dans la réalité que ça fonctionne pas, mais après tu vas être épuisé, quoi. Tu vas te retourner, tu vas te dire mais. Ouais, mais c'est le recrutement, c'est épuisant parce que l'énergie émotionnelle investie, ça nous fatigue, quoi.
Oui, complètement. Ouais. Ouais, non, c'est une très bonne autre comparaison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça me, j'ai une question du coup qui me vient en tête sur le romantisme par rapport à tes clientes et que tu accompagnes. Est-ce que tu as réussi à déterminer qu'il y avait un profil de cliente qui était plus dans cette démarche romantique que d'autres?
Alors c'est simple, quand je leur parle du profil du romantique, qui est un profil type qui a été créé, on va dire, par Logan Eury, c'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs, merci à toi Clem. Quand je leur parle de ça, ils me disent tout, oh mais attends, je suis plus une gamine, le mythe du prince charmant, je sais bien que ça n'existe pas. Je fais ok. Puis après, dans les comportements, j'observe, et c'est vrai chez les hommes aussi, hein. Il faut pas croire, hein. Moi, j'ai souvent quand même quasiment tous sont un peu des maximisateurs. Donc, le profil maximisateur, c'est les perfectionnistes qui veulent toujours mieux, mais qui sont aussi un peu romantiques parce que je trouve qu'il y a des points communs entre les deux. Et en fait, ce qu'on observe, ce que j'observe, c'est qu'en vérité, c'est encore extrêmement ancré en nous tous, quoi. Et qu'on a consciemment, peut-être, on se dit, mais non, c'est pas moi, mais inconsciemment, on a encore plein d'actes, plein de moments. Typiquement, le fait de dire ah, je le sens pas, quoi, prendre des décisions là-dessus, attendre des choses extraordinaires la première rencontre, tu vois.
Ouais, complètement.
Tu parlais des Anglo-Saxons tout à l'heure, des Canadiens en l'occurrence, ils ont une approche qui est, je trouve, alors que je n'envie pas, hein, mais qui est différente du premier date, mais là qui pour le coup peut être un peu horrible, quoi, à mes yeux, parce que justement, c'est ok, tu veux quoi, combien d'enfants, tu veux acheter une maison où,
Contractuel.
c'est quoi ton salaire, ok, bon.
Ouais, non, complètement. Et je pense qu'il y a en faisant le lien entre les Anglo-Saxons et nous, les Anglo-Saxons et nous, il y a des choses à apprendre qui sont bénéfiques dans leur culture et qu'on peut adapter, on peut apporter à la nôtre sans oublier l'affect qu'on peut avoir dans notre culture latine et française, quoi.
Ah ben si,
Mais
je pense, si on était love coach aux États-Unis, on apporterait plus d'approche émotionnelle, je pense.
ouais, peut-être.
Tandis qu'en France, l'idée, c'est d'apporter un peu plus de rationalité, quoi.
Ouais, c'est pas faux. Ici, là-bas, ils vont peut-être juger trop sur le CV et chez nous, trop sur les émotions. Un mélange
Exactement.
des deux permettra certainement d'arriver à l'objectif désiré, quoi.
Exactement. Ok, super.
Alors, est-ce que
Bah,
tu me racontes
écoute.
ta deuxième histoire?
Allez, cette fois, c'est un homme.
Ok.
Alors, je l'ai appelé Valentin. Donc, ça va être l'anecdote de Valentin. C'est un client que j'accompagne aussi. Et cette histoire que je vais vous raconter, c'était avant que je l'accompagne. Alors, il a eu un match sur une app avec une femme. Tout de suite, il voit que le profil lui plaît beaucoup. Les photos, majoritairement les photos, on ne va pas se mentir, mais aussi la phase de discussion qu'il trouvait fluide, intéressante. Ils avaient beaucoup de points communs. C'est une personne qui a plus de 50 ans, qui est dans un stade de seconde union, où on va dire que les intérêts communs vont avoir une place souvent beaucoup plus importante. Très rapidement, Valentin, il va arrêter de parler à toutes les autres personnes, il va se concentrer à fond sur cette personne. Ils ne se sont pas encore rencontrés. Ils passent beaucoup de temps, tous les deux, à discuter en ligne. Donc, ils sont passés sur WhatsApp. 1 à 2 heures par jour. Et là, je compte tout. Lecture du message, qu'est-ce que je vais lui répondre, j'envoie le message, je lis les messages, j'attends la réponse, j'y pense, je regarde mon téléphone, tous ces espèces de micro-moments qui, mis bout à bout, font un gros volume horaire. Le temps passe, quasiment 3 semaines, rythme est le même, ils parlent beaucoup, beaucoup. Ils sont toujours pas rencontrés. À ce moment-là, du côté de Valentin, il se dit, ok, c'est la femme de ma vie, c'est la bonne, je le sens. Finalement, il y a une rencontre qui a lieu, donc un mois après leur match, dans un café parisien. De son côté, quand il la voit arriver, tout se confirme. Il est fan d'elle. Mais de son côté, elle dit assez rapidement dans la rencontre que elle envisage aucune relation sentimentale, seulement amicale. Et là, c'est le drame.
Ouais, tu m'étonnes.
Valentin, il analyse rétrospectivement ce dernier mois. Il se dit, mais putain, j'ai investi des heures et des heures de temps, d'émotion. J'ai coupé tous mes autres liens avec les autres personnes auxquelles je parlais. À ce moment-là, il est vraiment au fond du seau. Sa conclusion, les apps, il y a que des personnes et des femmes qui sont pas sérieuses. J'arrête ça, je vais retourner à des modes de rencontre traditionnels. C'est ça, c'est à cause de ça, c'est sûr. Et il se désinscrit ensuite.
Okay.
Il part sur plusieurs mois d'errance à essayer de faire des rencontres dans des assos de rando, des trucs comme ça, tu vois.
OVS.
Exactement. Et il n'y a rien qui fonctionne, tu vois.
Ouais.
C'est suite à ça, d'ailleurs, qu'il a commencé l'accompagnement avec moi. Donc, ça a été un des premiers trucs sur lesquels on est revenu. Donc, entre guillemets, les petites erreurs que... Les apprentissages qu'on en a tirés. Donc, pour moi, c'est une erreur déjà d'avoir tout misé sur une personne à un stade encore totalement virtuel et donc par principe fragile. On en parlait tout à l'heure avec cette idée de capital émotionnel. Tu ne fous pas toutes tes économies sur du Bitcoin, quoi, tu vois. Bon, bah là, c'est pareil. Le Bitcoin, c'est totalement virtuel. Bah là, même si la personne te plaît, etc., et que peut-être il y a la promesse, une belle promesse par la suite, en vérité, c'est que vous n'êtes pas rencontré et que tant que tu n'as pas rencontré, bah, tout ça, c'est ultra fragile.
Ouais.
Il n'y a que le réel qui compte. Et ça, pour moi, c'est aussi un point commun avec les esprits romantiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, mais femmes comme hommes, qui ont beaucoup de difficultés à se dire d'un côté, elle, je kiffe trop parler avec elle et tout, et je dois parler avec d'autres personnes en parallèle. Et en fait, pour moi, le problème, c'est que justement, si déjà tu te projettes de manière beaucoup trop forte avec une personne, en effet, là, ça veut juste en train de dire que tu es en train de dilapider ton capital émotionnel et que tu n'as plus de place pour les autres. Et là, le risque, il est énorme. Tu auras peut-être la chance que c'est la bonne personne, mais peut-être pas. Deuxième point pour moi, ben voilà, je viens de le dire en fait, avoir investi beaucoup trop de temps et d'émotions avant la rencontre. En gros, il s'est passé un mois avant la rencontre. Bon, surtout pas quoi, parce que plus tu vas parler virtuellement, c'est une relation épistolaire quoi. Plus tu vas fantasmer, plus tu vas plaquer sur l'autre une réalité que tu t'es imaginée.
Mmh.
Et si cette personne est sort de cette réalité que tu t'es imaginée, terminé. Donc lui, ça a fonctionné et elle lui plaisait toujours autant, mais ça n'a pas été le cas de l'autre côté.
Ouais.
Et dernière erreur, ça a été d'en tirer une conclusion généraliste et négative sur les apps, quoi, et les femmes, un peu comme Estelle juste avant, donc se désinscrire.
Ouais.
Erreur typique, mais c'est le meilleur moyen parce que c'est une boucle qui peut être reproduite en permanence, c'est-à-dire, j'avais écrit un article là-dessus, donc tu vas sur les apps, tu vis une déception. Tu le prends, ça réouvre ta blessure, ta faille narcissique. Tu projettes, tu trouves un bourreau, donc les apps ou les femmes ou les hommes. Tu prends un moment pour te ressourcer pendant 6 mois. Au bout d'un moment, tu te sens mieux. Il y a un pote qui te dit « Ah, j'ai rencontré une meuf sur une app, c'est génial. » Ou bien tu vois une pub dans le métro d'une app toute nouvelle, trop bien. Tu te dis « Allez, c'est bon, c'est peut-être la bonne. »
Inge qui est partout.
Exactement, exactement. Tu te réinscris et tu recommences exactement le même processus en permanence. Donc,
ouais.
Tu sais, il y a une phrase qui dit en gros, un fou, c'est une personne qui fonce tout le temps dans le même mur, quoi. Enfin, qui reproduit tout le temps le même schéma sans jamais se remettre en question. Voilà, parce que ça, c'est aussi un point extrêmement important pour moi, c'est se remettre en question, quoi. Foutre la faute sur les autres, c'est très bien, mais ça te fera pas avancer. Oui, on peut toujours trouver des trucs à redire sur les autres, mais on ne maîtrise pas ça. Donc, il faut mieux se concentrer sur nos propres actions, nos propres actes, parce qu'on les maîtrise et qu'on peut, avec ça, tout changer.
Ouais. C'est ultra intéressant ce que cette histoire nous amène sur la table, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Déjà, c'est que ce qu'expérimentent beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'elles ont des déceptions suite à des hommes qui ne veulent pas s'engager, bah, ton histoire prouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent la même chose aussi, et que ce n'est pas forcément une question de sexe, même si des fois il peut y avoir des tendances qui sont plus d'un côté que de l'autre. On se rend compte que ça arrive à plein de gars aussi, et c'est le plus dur en fait, c'est d'arriver à aligner deux personnes qui se trouvent aussi attirantes l'une que l'autre.
Je dirais même que je pense que ça se produit encore plus pour les hommes. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense que les hommes sur les apps de dating, c'est un râteau minute. Hein.
Oui,
je veux dire, quand tu prends toutes les... C'est en gros ce que je veux dire par là, j'exagère, mais que l'expérience masculine sur les apps de dating, elle est très complexe.
Ouais.
Quoi.
Ouais, non, complètement. Je pense que la vraie différence, c'est en fait, c'est dans le timing, à quel moment il arrive sur le râteau. C'est que la différence, c'est que les hommes, ils se le prennent direct et que les femmes, elles se le prennent après 3 semaines et avoir couché 3 fois avec lui. Et du coup, bah, émotionnellement, la douleur est différente, quoi. Elle est chiquée, elle est le plus intense, on va pas débattre là-dessus, mais dans tous les cas, ça peut arriver aux deux parties.
Non, mais tu as exactement raison, en fait. Ça va pas arriver à la même étape du processus, quoi.
Ouais, c'est ça. Et après, oui, je suis d'accord avec toi, parler un mois avec quelqu'un alors que tu ne l'as pas rencontré, c'est vraiment juste pas être intelligent dans la manière dont on alloue nos ressources. Mais il y a une autre chose qui est intéressante aussi dans ton histoire, c'est que quand elle lui a dit, bah, finalement, cherche qu'une relation amicale, ça nous montre en fait que dans la rencontre, la plupart des gens n'osent pas dire la vérité de manière assez frontale. Elle n'allait pas lui dire, non, mec, désolé, mais. Ça ne fera pas entre nous deux, je te trouve pas bien, t'es dégueulasse, t'es pas drôle, ça marchera pas quoi. Personne dira ça. Les gens essayent toujours de passer par un autre chemin et la plupart du temps c'est je veux pas m'engager ou je veux juste être ami. Le
Ou
problème,
ghosting.
ou le ghosting, qui est la pire évidemment. Mais le problème avec ces réponses qu'on peut avoir, c'est que du coup on se dit que sur les apps il y a que des gens qui veulent pas s'engager. Et du coup, ça fausse notre compréhension de ce que sont les applications de rencontre. Et alors après, on part dans ce que tu as dit, c'est dans la réflexion à se dire que bah, le problème, c'est le moyen, c'est les apps. Et c'est pas juste la personne qu'on a rencontrée. Et c'est ça qui est terrible, quoi.
Quand tu vis une expérience comme ça, ultra déceptive, et que tu la vis personnellement, tu as tendance à avoir des lunettes grossissantes sur cette expérience-là, en te disant que si ça t'est arrivé 3-4 fois, tu t'en tires des conclusions ultra généralistes et tu te dis, bah, mais, tous des connards, tous des salopes, hein. Grosso modo, c'est les conclusions auxquelles beaucoup de gens en arrivent. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul, il faut lâcher la vision micro pour une vision plus macro, et c'est pour ça que la science, c'est pas mal. Les études, il y en a beaucoup sur ce sujet-là, c'est pas mal. Certes, ça applique, c'est très froid, mais ça, ce que je le disais hier à une personne avec qui je discutais, je disais, mais elle me disait, mais les apps, ça n'a jamais créé autant de déceptions. J'ai dit, c'est aussi l'outil qui a jamais créé autant d'histoires, d'amour et de couples de toute l'histoire de l'humanité, en termes de quantité.
Complètement.
Donc, oui, il y a chaque année des millions de déçus sur les apps de dating, mais chaque année, il y en a des millions qui sont hyper heureux. J'en suis la preuve. Moi, j'ai trois quarts de mes amis de ma génération qui sont tous rencontrés sur les apps de dating. Donc, voilà. Donc, je veux dire, en fait, il y a tellement de personnes sur ces outils-là que chaque personne a un avis bien tranché. Moi, le nombre de personnes, je ne sais pas si on te l'a déjà dit ça, moi, le nombre de personnes avec qui je discute, des potentiels clients ou des clients qui me disent, je pourrais écrire un livre sur mon histoire sentimentale. Moi, c'est une phrase que j'entends très souvent. Et ça me fait rire parce que je trouve que
Sur mon
en...
histoire ou mes histoires, du coup?
sur mes histoires, tu vois, sur ce que j'ai vécu sur les apps de dating, en fait. Parce que les gens le vivent comme un roman avec énormément de passion,
Dans ce sens-là.
Ouais. Mais oui, il faut, voilà, c'est pour ça, je pense qu'en effet, il faut toujours prendre un peu de recul sur ces outils et pas prendre son expérience personnelle comme étant une vérité générale. Et moi, je trouve, après, c'est peut-être, ça ne marche que pour moi, tu vas me dire si c'est le cas pour toi. Moi, je trouve ça assez rassurant quand même, les études qui prouvent que, enfin, ces grandes tendances, en fait, que nous, on lit beaucoup de par notre métier, mais.
Mais je suis oui, complètement. Je pense que notre travail, c'est d'amener du pragmatisme aux gens au début pour après insuffler du romantisme par la suite. Et en soi, la manière dont on s'est rencontré est tellement peu importante par rapport à la magnifique histoire que tu vas pouvoir créer avec la bonne personne. Et
Tellement.
oui, je suis d'accord avec toi. La rencontre, c'est une compétence. Cette compétence, elle s'apprend, elle s'enseigne. Et il y a quelque chose de très scientifique aussi dedans. Et on a beaucoup de données, depuis des décennies d'ailleurs, qui nous expliquent qu'est-ce qui peut nous aider à nous rapprocher des relations qu'on veut, des relations qui sont stables et durables. Et pourquoi pas utiliser toutes ces données alors qu'elles peuvent nous aider. Il ne faut pas cacher la vérité, au contraire, il faut regarder ça de manière assez en face et pour que ça nous aide ensuite à pouvoir créer qu'on augmente nos chances pour créer ces magnifiques histoires.
Entièrement d'accord. C'était une très belle manière de conclure cette deuxième anecdote. Donc maintenant, on va passer aux anecdotes personnelles, c'est-à-dire qui nous
Ouh là
concernent.
là.
Donc celles-là, elles ne vont pas être anonymisées. Les précédentes le sont, mais là, vous allez savoir que c'est nous. Donc on va se dévoiler un petit peu. Je te laisse commencer.
C'est parti. Alors, moi, je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée sur une rencontre Tinder. Je pense qu'elle va être utile pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des mecs d'un point de vue féminin. Je swipe sur Tinder, je match avec une fille très jolie, profil sympa. On a l'air d'être un peu dans la même vibes et on commence à parler, discussion super fluide, on commence à s'écrire un peu des pavés. en quelques jours, si ce n'est même en une seule soirée, on se dit qu'on va se rencontrer. Et on prévoit le date, pas pour ce week-end, le week-end qui arrive, mais pour la semaine prochaine. Parce que ce week-end, elle sort et qu'elle est pas, elle est occupée. Donc, pas de problème. Mais on continue la conversation sur WhatsApp, on se parle. Et du coup, samedi soir, elle me confirme qu'elle sort. Dimanche, elle m'écrit en me disant, en me racontant qu'elle est chez elle, que la soirée s'est bien passée, mais que bon, elle a quand même fini à 8h du matin. Là, je me dis, OK, grosse différence.
Parce que toi, tu bois pas et tu t'as une vie très saine.
Exact. Et je sais, et à l'inverse, quand j'étais plus jeune, enfin, je ne suis pas très vieux, hein, mais pour l'audience, j'ai 30 ans, mais quand j'étais dans ma vingtaine, je faisais des soirées qui finissaient à 8h du matin et je connais très bien ce genre de soirée. Et je sais dans quel état on est le dimanche ensuite.
Ouais.
Et dans la conversation, je me dis, OK, petit signal d'alerte. La conversation continue et en même temps on parle un peu de nos objectifs, ce qu'on cherche. Très rapidement elle me dit qu'elle veut se marier et qu'elle veut avoir des enfants. Je me dis bon, c'est étrange d'en parler aussi rapidement par message alors qu'on ne s'est pas rencontré. Étrange parce que c'est pas commun, mais
vous n'étiez pas
côté...
rencontré là?
Non, c'est toujours pas rencontré.
Ok.
Mais d'un autre côté je me dis ok, moi je suis ouvert d'esprit, ce sont mes valeurs, je veux me marier, je veux avoir des gosses, donc pourquoi pas, tu vois. Et puis c'est de la communication qui est claire et limpide,
Exactement.
ça me va. C'est intéressant à savoir, donc pour toutes celles qui veulent se marier et avoir des enfants, vous ne ferez pas forcément peur à des mecs à au
Ouais.
moins le notifier sur l'application, quoi. On peut
Si,
le
en tout
faire
cas,
après.
ça fera peur à un mec qui n'a pas envie.
Voilà, exact, mais il sera pas dans la démarche dans laquelle vous êtes.
Ouais.
Et donc on continue la conversation, mais je sens qu'elle transpire une certaine anxiété à vouloir rapidement trouver quelqu'un, rapidement trouver l'amour, rapidement avoir des gosses, rapidement se marier. Et là, je me suis dit, OK, ça aussi, ça paraît bizarre. Parce que c'est quand même, en fonction de la personne que tu rencontres, tu ne vas pas forcément te dévoiler à ce point-là ou lui faire comprendre qu'en fait, peu importe la personne, l'objectif, c'est ces étapes-là. Donc, je me dis, bon, ça commence à paraître bizarre, mais pourquoi pas? Et en gros, la dernière chose qu'elle me dit, c'est, alors qu'on devait se voir le mardi soir, elle me dit, donc le dimanche, là je suis seul chez moi et tout, tu veux passer ce soir? Là je me dis, ok, bon, elle m'invite chez elle en premier date, alors qu'elle est en lendemain de soirée, qu'elle me dit qu'elle veut des gosses et se marier, et qu'elle est certainement fatiguée là. Je me dis, ça sent pas bon pour du long terme, mais là... mon instinct masculin prend le dessus et me dit bon, on va quand même y aller, on va voir ce qui se passe, quoi. Et je vais chez elle, on parle, on échange, elle est cool, elle est sympa, elle est jolie, mais assez rapidement, par rapport à ce qu'on s'est échangé, bah, j'arrive à la conclusion que ça ne le fera pas sur le long terme, quoi. Je me dis, enfin, ma tête le sait, mais mon corps d'homme me pousse, quand je la regarde dans les yeux, à l'embrasser. Et il se passe ce qui se passe, la tension elle monte, forcément on part dans la chambre, on couche ensemble, là on commence à parler après l'acte dans le lit, et puis je lui dis que je vais pas dormir là, je pars, et le lendemain bah, je lui explique que ça va pas le faire, que je le sens pas parce que je sens qu'on a un train de vie trop différent, ce qui était la vérité, et que c'est ce qui me fait le plus peur, quoi, parce qu'apparemment elle faisait des soirées comme ça tous les week-ends, hein, pour préciser.
Ok.
Et en gros, bah, rapidement, elle me dit OK, qu'elle comprend. Et en même temps, elle me renvoie un message après en me disant qu'elle est déçue, qu'elle se sent mal par rapport à ce qui s'est passé hier, qu'elle n'aurait peut-être pas dû me dire de venir chez elle. Et là, je me dis, bah ouais, je te comprends et tout. Et alors moi, je suis vraiment pas ghosté, et au contraire, à lui expliquer plus en détail pourquoi, parce que c'est ce qu'elle m'avait demandé, pourquoi je me sens pas d'aller plus loin, tu vois. Mais par contre, je me rends compte d'un truc, et moi aussi, ça me fait chier que ça lui fait qu'elle soit pas bien après cette histoire, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les femmes en général. Elles ont un besoin quand même de connexion émotionnelle beaucoup plus fort que nous pour coucher avec quelqu'un. Là où nous, bah, en soi, même si j'aurais été déçu qu'elle n'aurait pas voulu me revoir, je m'en serais jamais voulu d'avoir couché avec elle. Et je me dis qu'il faut se protéger en tant que femme d'hommes qui peuvent avoir juste des objectifs différents, parce que on peut avoir un objectif court terme et un objectif long terme en même temps, et en une soirée on peut voir quelqu'un et pas la rappeler le lendemain. Psychologiquement, ça nous ira très bien en fait. Et des fois il y a un peu nos deux psychologies, masculine et féminine, rentrent en conflit, et c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir comprendre, enfin, il faut comprendre comment les hommes réfléchissent pour faire attention à ce qu'ils vous mettent pas dans ces situations qui pourraient vous rendre mal. Et c'est tout à fait légitime de se sentir mal après une situation comme ça.
Je suis entièrement d'accord sur ton analyse à la fin. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes en écoutant qui ont des qui vont se dire mais ça a changé, les femmes aussi elles peuvent coucher sans émotion, etc. Alors c'est vrai que ça change un petit peu, mais ça reste encore assez faible. Peut-être que d'ici 100 ou 200 ans, ça va vraiment changer. D'ailleurs, il y avait un psy que j'avais interviewé dans le cadre de mon podcast qui avait dit cette phrase dans son bouquin. Le conseil de vieille grand-mère qui vous invite à ne pas coucher le premier soir n'est pas si bête, parce qu'il permet aussi de voir l'homme qui a vraiment envie de construire un couple versus celui qui a juste envie de coucher. En général, celui qui a envie de coucher, au bout d'un moment, il va renoncer, quoi. Si,
Complètement, ouais, je suis d'accord avec toi.
et toi,
Vas-y.
tu penses que si elle t'avait pas invité, comment, enfin, qu'est-ce qui fait selon toi que tu n'as pas voulu aller plus loin? Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'elle t'ait invité un dimanche soir, le lendemain de cuite, qui laisse penser que peut-être elle se sentait très seule et donc qu'elle t'a invité pour combler une solitude, hein? Moi, c'est l'impression que j'ai.
Ouais, complètement. Ouais. C'est
Ou
un peu la
bien, est-ce qu'il y
traduction
avait
que
d'autres
je me suis
choses?
faite aussi. Ouais, bah, la première des choses, c'était que les soirées jusqu'à 8h du mat, forcément, fait que tu consommes des substances qui ne sont pas juste du Perrier. Donc, j'ai pas du tout envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui est dans
Après, moi,
ce.
ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut changer, ça aussi.
Oui, mais alors, par mon passé, j'ai eu des histoires comme ça, avec des problématiques avec quelqu'un qui consommait de la drogue. Et ça a été quand même très difficile à vivre.
OK.
Donc, aujourd'hui, je prends quand même mes distances par rapport à ça. Je trouve que c'est une raison assez légitime pour juste arrêter. Mais à côté de ça, comme tu l'as dit, et tu as très bien pointé la situation, c'est que quelqu'un à qui tu prévois un rendez-vous la semaine prochaine et qui te dit, ouais, non, finalement, on se voit plus tôt parce qu'elle se sent seule après une soirée, bah, tu fais directement le lien en mode, elle a un problème avec la solitude, elle a du mal à gérer ses dimanches où elle fait rien, et bah, du coup c'est beaucoup moins séduisant, quoi. Et puis,
Ah, je
enfin,
suis
c'est même
entièrement d'accord.
au-delà de la séduction, c'est que ça transmet une espèce d'insécurité qu'il y a chez elle, quoi.
Ouais. Hyper intéressant et bravo parce que pas facile aussi de se dévoiler comme tu viens de le faire, quoi.
Je pense que ça peut être vraiment utile à certaines femmes qui commencent à fréquenter des hommes ou qui aimeraient rencontrer un homme très rapidement pour savoir un peu ce qui pourrait se passer dans leur tête à ce moment-là. Et je trouve que je vais faire aussi un lien par rapport à ce que tu as dit sur que les femmes, sa tendance à évoluer, qu'elles commencent à vouloir plus avoir des histoires plus légères et qui durent pas très longtemps. Moi, honnêtement, je viens de lire un livre de Louise Perry, qui est une essayiste anglaise, qui parle un peu de la révolution de la liberté sexuelle, qui peut jouer en défaveur à beaucoup de femmes. Je pense que c'est très intéressant de comprendre en tant que femme son expérience et de savoir si on apprécie ou pas ce genre de relations très courtes. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut surtout pas se flageller de ne
Et
pas
pas de le
pouvoir
faire par
réfléchir comme un homme.
mimétisme.
Exact.
Exactement.
Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que on dit à beaucoup de jeunes filles, soyez libres, couchez comme des mecs. Sauf que pour beaucoup d'entre elles, ça ne va pas du tout les satisfaire émotionnellement, au contraire. Et si ça ne vous met pas bien, ce n'est pas une question de société. C'est juste, là, faites-vous confiance, quoi.
Entièrement d'accord. C'est hyper. Je vais le lire ce bouquin du coup, mais. T'as très bien retranscrit ce que je pense aussi, quoi. C'est-à-dire que agir uniquement par mimétisme, parce qu'il y a un côté cool, hein,
Ouais, complètement.
de maintenant que ce qui, enfin, en fait, n'est ni cool ni pas cool, hein. Je suis pas dans le jugement, mais ce qu'il faut interroger ses émotions, enfin, savoir si on le fait parce que ta meilleure copine, elle le fait aussi, et c'est vrai pour les mecs d'ailleurs, hein. Il y a des mecs qui prêtent, enfin, qui enchaînent. Qui essaye du moins ou qui arrive à enchaîner les rencontres et les conquêtes et qui pour sont pas heureux pour deux sous et parce qu'ils le font un peu pour parce que je suis un mec quoi, pour montrer que je
Oui,
suis un
bien
mec.
sûr. Ouais, non, complètement. Mais je pense que c'est intéressant de pas faire de se dire qu'il y a des cas individuels, que chaque individu est un peu différent, mais il y a quand même des généralités
Ouais.
qui nous permettent de comprendre les tendances d'envie des deux sexes, quoi.
Et c'est
Et
pour des
que du
raisons toujours
coup,
évolutionnistes, ça.
Ouais, complètement, ouais.
Et c'est
Pour
pour ça
un
que je trouve
homme, c'est une...
c'est
Vas-y, vas-y.
je trouve c'est hyper intéressant de s'intéresser à l'anthropologie. Et puis il y a beaucoup de scientifiques qui écrivent des bouquins là-dessus sur qui et d'ailleurs tu m'en avais parlé, tu avais appelé ça la psychologie évolutionniste.
Évolutionniste, ouais.
Donc l'idée de s'intéresser aux évolutions des comportements au fil du temps, au fil des sociétés, c'est fou, ça permet de prendre du recul et de voir que en fait, on fait toujours les mêmes choses, mais on part des canaux totalement différents, quoi. Il y a
Ouais,
des rythmes un
complètement.
peu différents, mais
Ouais. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il y a des différences de stratégie de rencontre entre les hommes et les femmes, et que les hommes et les femmes ont des manières de réfléchir qui sont différentes, et il faut les savoir, les connaître et y faire attention.
absolument. Ok. Bah
Alors, on veut
écoute,
savoir maintenant, Antoine, ton
donc
histoire perso.
je vais raconter une anecdote me concernant qui date donc de mon début d'histoire avec Agathe, avec qui je suis toujours depuis 4 ans. Donc c'était il y a 4 ans environ ce que je vous raconte. Et avant de vous le raconter, j'avoue que j'ai longuement réfléchi avant de le raconter, avant de me dire que j'allais le raconter, parce que bah, là je me dévoile pas mal, mais comme toi, en fait, je me dis que ça peut être hyper intéressant, et puis voir qu'on peut changer, quoi. Enfin, on peut changer, on peut évoluer sur certains points. On ne change pas vraiment.
Ok, on veut savoir maintenant.
En fait, il y a 4 ans, donc au tout début de mon histoire avec Agathe, j'ai failli tout faire capoter. Je t'explique. Je vous explique. Au premier date, quand je l'ai vu, j'étais raide dingue. Direct.
Un
Franchement, je
homme.
pense que ça s'est joué en 1 seconde, je pense, honnêtement, voire 0,5.
Ouais.
J'étais déjà très confiant quand j'y allais, parce
Ok.
que j'avais eu limite un petit coup de foudre sur les photos. Elle avait plein de photos qui étaient ultra claires, tu vois. Donc, je sais qu'il n'y avait pas
Peut-être
de
rencontré sur une application de rencontre?
celle que j'avais créée à l'époque,
Ah,
donc
easy.
sur Abricot. Et donc, c'était pour expliquer, c'était un truc où tu reçois un profil. Si tous les deux on est d'accord, l'application organise directement une rencontre, il n'y a pas de phase de discussion.
Ok,
Et
cool.
il y avait échange de numéros la veille.
Ok.
Donc on se rejoint au métro Arts et Métiers à Paris. Je la vois arriver, robe rouge et tout. Moi, je suis dingue.
Excellent. Mettez des robes rouges, mesdames.
Ouais, non, mais tu sais que elle m'a dit après que, parce qu'elle avait lu un bouquin sur la force du rouge,
Ouais,
elle
j'en ai
m'a dit
entendu parler, ouais.
qu'elle avait mis, entre autres, pour ça, parce que c'était aussi une très jolie robe. On était en haut printemps, donc robe un peu légère, rouge pétard.
Les hommes sont très visuels.
Ah ouais. Bref, moi, je sais direct que je peux, entre guillemets, parce que ça, je me dis, je peux lui faire des enfants, quoi, cette femme.
Ouais. On n'est pas compliqué.
Mais au sens littéral du terme, hein, pas au sens vulgaire du terme. Et du coup, moi, après le premier date qui dure très longtemps, en fait, qui dure toute la nuit, moi, je rentre chez moi, je me rappelle au petit matin, tu sais, pas faim, je suis comme un fou sur un nuage, quoi, tu vois. Donc moi, dès le début, j'avais de mon côté une très forte envie de la revoir. Genre, j'aurais pu, moi, la revoir tous les jours. Mais je voyais qu'elle tempérait mes ardeurs, tu vois, qu'elle ralentissait le rythme. On se voyait, en gros, une fois par semaine, au début. À chaque fois que je la revoyais, moi, ça confirmait totalement toutes mes impressions, quoi. J'étais de plus en plus redingue. Enfin, je veux dire, c'était au même niveau, quoi. À ce moment-là, moi, j'interprète le fait qu'elle tempère mes ardeurs en mode « Ok, laisse tomber, elle n'est pas intéressée. » Parce que moi, je suis comme un dingue. Donc, si elle n'est pas comme moi, ça veut dire qu'elle n'est pas dingue. Donc, elle ne me kiffe pas, tu vois. J'ai commencé à douter, moi. Et mon doute s'est transformé en anxiété. Et j'avais besoin, moi, de calmer cette anxiété. C'était une pulsion, tu vois, que je n'arrivais pas à contrôler. Sauf que moi, la manière dont je le faisais, c'était en mettant en place des stratégies détournées, en observant les signes, à un moment, pas envoyer de message pour voir si elle m'en envoie. Bref, ce genre de petits trucs, tu vois. Et ces stratégies, elles m'ont pas du tout permis d'obtenir une réponse claire. Elles ont juste alimenté mon anxiété, en vérité. Et surtout qu'après, tu es dans une phase où tu interprètes, tu surinterprètes tout et tu te crées une réalité parallèle, quoi. Et en même temps, moi, en même temps que mon attachement y grandissait, mon anxiété, ben, ça suivait, quoi. Et ça s'est transformé à un moment en peur et doute de la perdre. Et je me disais qu'elle était un moment trop bien pour moi, qu'elle devait beaucoup se faire draguer, qu'elle en trouverait un mieux, plus intelligent, plus beau, plus ceci, plus cela. Bref, je me dévalorisais. Et jusqu'au jour, en fait, où je m'étais enfermé dans un piège tout seul, Et le seul moyen que j'avais trouvé pour me rassurer, c'était pas de lui parler, de faire preuve de courage. Non, non, non. Ça a été, et je vais le dire, et c'est pour ça que ce que je vais dire, c'est j'en ai honte encore aujourd'hui, mais c'est pour ça que je veux en parler aussi, c'est que j'ai voulu regarder dans son téléphone.
Okay.
Sauf que j'ai pas réussi et qu'elle m'a gaulé.
Okay. Oh, my God.
Voilà, c'est dit. Et en fait, s'en est suivi. Moi, je savais pas qu'elle m'avait gaulé sur le coup, tu vois.
Ok.
Mais trois jours plus tard, elle me dit, tiens, Antoine, ça te dirait, on va prendre un verre tous les deux, faut qu'on parle. Là, j'ai le cœur. Doutoun, 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 doutoun. Et là, elle m'a fait une discussion extrêmement posée, extrêmement calme. J'avais jamais vu ça, moi. Et où elle m'a dit qu'elle avait jamais vu ça non plus. Elle m'a dit, en gros, je sais ce que tu as voulu faire. Elle m'a dit, pourquoi tu as voulu faire ça? Mais tu sais, très okay. calmement, quoi.
Ok.
Je me sentais pas du tout jugé. Je me sentais genre. Elle a créé un truc où je me sentais bien et j'ai tout dit. Je me suis autorisé à tout dire, tu vois. J'ai parlé de mes peurs, tout ce que je viens de raconter, en fait.
Okay.
Et elle, je la voyais, elle écoutait ça avec un calme, un truc de ouf.
Ouais.
Et en fait, elle m'a répondu point par point, toujours aussi calme. D'un côté, moi, j'étais hyper honteux, mais de l'autre côté, j'étais en train de me prendre une putain de leçon, tu vois. J'étais en gros... J'étais en train, en plus, de totalement me calmer, tu vois, d'être rassuré, en gros. Et de me rendre compte qu'en même temps, c'était pas son rôle de me rassurer, tu vois. Qu'il fallait aussi que je me... Ça, je l'ai compris moi-même, mais qu'il faut aussi se rassurer soi-même, se responsabiliser, tu vois.
Ouais.
Et donc, en gros, je me suis rendu compte que je m'étais... C'est parti d'une émotion qui est une attirance extrêmement forte, qui s'est transformée en petite anxiété, qui est devenue une grosse anxiété et qui, quasiment, à la fin, est devenue une mini-parano, tu vois.
Ouais.
Et je m'étais en gros créé une espèce de réalité parallèle. J'étais totalement à côté de la plaque. Mes émotions avaient clairement pris le dessus et m'avaient mal indiqué la route. Elle m'a offert, donc comme je le disais à ce moment-là, moi j'appelle ça une leçon. Alors, c'est pas ma prof, mais en gros, elle m'a une leçon de maturité quand même, je trouve. Et en fait, c'est suite à cette discussion qu'on a eue que notre couple a vraiment démarré, ou plutôt que j'ai vraiment démarré. Et en fait, quand je me retourne, je me dis... Très peu de personnes, peut-être moi le premier à sa place, j'aurais fait preuve de patience comme ça. J'aurais certainement pas laissé une seconde chance, peut-être, moi. Elle, en fait, elle avait pas mal d'expérience sentimentale au préalable, deux relations de 4 ans. Moi, j'avais eu des histoires plus ou moins longues, mais en gros, ma plus longue à ce moment-là, c'était 1 an et demi. Donc ça, c'était il y a 4 ans, dites-vous. Moi, je venais à peine de commencer à me lancer dans le marché du dating. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce marché-là, c'est qu'on apprend à la fois en lisant des livres, en suivant des gens, mais aussi dans nos propres expériences personnelles, quoi. Et voilà. Et donc, moi, je voulais les erreurs commises, je me suis auto-analysé. Ouais. Tu me donneras ton avis après. C'est premièrement, c'est qu'il faut accepter au début de relation que chacun va à son rythme et que globalement, la femme va mettre plus de temps pour se faire une idée précise de là où elle veut aller avec un homme. En gros, elle nous teste un peu, quoi. Quand nous, les hommes, on peut prendre les décisions très rapidement, encore pour des raisons évolutionnistes. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et ça, c'est le premier truc. Comprendre que chaque personne a son rythme et ne pas analyser le rythme de l'autre par le prisme de son propre rythme à soi, en se disant « Ok, elle n'a pas le même rythme que moi, donc ça veut dire qu'elle ne me kiffe pas. » Et surtout, pas avoir parlé plus tôt, en fait, avec elle de mes angoisses, pas avoir fait preuve de courage à ce moment-là, au lieu de mettre en place des stratégies détournées qui m'ont emmené dans un espèce d'engrenage qui aurait pu très mal terminer, en fait. Où on aurait pu se séparer, quoi. Elle aurait pu dire, écoute, ce que tu as fait, ça ne me va pas du tout. C'est ciao, quoi. Et en fait, elle m'a dit, en gros, écoute, voilà, moi, ça ne me va pas. Donc, elle a posé clairement ses limites. Elle m'a dit, tu le refais une seconde fois, c'est ciao, quoi. Mm-hmm. Et moi, derrière, je ne l'ai pas refait. Parce que voilà, et puis surtout j'ai appris à discuter. Elle m'a montré qu'on pouvait, parce que moi j'avais une approche où je me disais, je vais pas commencer à montrer mon attachement, tu sais, dans ces stratégies que j'ai pu mettre en place aussi. C'est si je lui parle de mes angoisses, elle va croire que je suis ultra attaché, et donc moi je pense qu'elle va partir, parce que en fait non. Si elle part, c'est que parce que tu lui parles de tes angoisses, mais ça veut dire que, mais à Agathe, si j'en avais parlé, il y a aucun doute qu'elle aurait, elle m'en aurait parlé, quoi. On en aurait parlé calmement comme elle a fait, quoi.
Okay.
Voilà cette histoire.
J'ai une première question. Ça s'est passé en combien de temps, c'est cette phase où, de la première rencontre à cette discussion où tu es un peu.
Je dirais entre un mois et 2 mois. J'ai plus un souvenir exact, mais je dirais entre un mois et 2 mois.
Ok, intéressant. Okay. Déjà, moi, je pense que ce qui est super intéressant avec ton histoire, c'est que ça montre exactement ce que ça fait d'avoir une discussion avec quelqu'un de sécure. C'est quelqu'un qui sait poser les choses. Et moi, je ne dirais pas que c'est de la maturité, parce qu'il y a des gens qui sont âgés, qui ont vécu plein de relations et qui sont toujours dans des schémas insécures. Et que Agathe, elle est dans un schéma sécure et qu'elle t'a prouvé en fait ce que c'était que de pouvoir parler de manière authentique, claire, avec une communication limpide, avec quelqu'un que tu venais de rencontrer. Et je veux dire à toute notre audience, Agathe, le profil d'Agathe, c'est votre objectif. C'est-à-dire, vous voulez chercher quelqu'un qui est comme ça, avec qui vous pouvez parler. Vous pouvez parler de vos peurs, vous pouvez parler de vos challenges, vous pouvez parler de vos objectifs et qui ne va pas être angoissé à leur tour, quand vous exprimez ça, ou qui ne va pas fuir par rapport à ces peurs-là. Et je trouve
C'est
que c'est ça qui est
le
génial.
entièrement d'accord avec toi. C'est le nec plus ultra en termes de. Là, on parle vraiment en termes de comportement. Je laisserai après le reste. Mais en termes de. Et à ce moment-là, je connaissais pas du tout moi Sécure, les styles d'attachement. Je les connaissais pas. Mais j'avais pas besoin de les connaître pour savoir que c'était waouh, tu vois, ultra rassurant. Enfin, en fait, plus que rassurant, c'est calme. Tu vois, pour moi, il y a un mot, c'est calme.
Ouais,
C'est apaisant. Voilà.
Bah ouais, non, mais complètement. Et je pense que c'est intéressant du coup de faire aussi le lien avec les conseils en séduction qu'on peut avoir en général sur Internet, que ce soit sur YouTube ou autre. En général, vous allez avoir beaucoup de conseils en séduction qui vont justement créer un peu ce que tu as fait au début.
Ah
Je te réponds
mais
pas tout de suite, je te réponds dans 2, 3 jours. Essayer soit de se créer une espèce de personnalité ou de signaler quelqu'un qu'on n'est pas. Et
on a été, je sais pas, toi, enfin notre génération, on a été un peu éduqués où les bad boys s'appelaient quoi, tu vois. Donc le bad boy, il a des comportements où il fait semblant de pas être à fond, machin, il joue
exact,
un rôle
exact.
quoi.
Bah, et je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Pourquoi les bad boys plaisent, on pourrait en faire un épisode. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour aller rapidement à une relation stable et durable, il faut vite faire tomber les masques. Et je pense que en 2, 3 dates, allez, on va dire 3, 4 semaines, tu peux arriver à avoir cette discussion. Au
Absolument, mais
début, juste.
en vrai, assez rapidement, en effet, à partir de 2 semaines, je pense.
Ouais, 2, 3 dates, à mon avis, c'est faisable. Et c'est intéressant de
Et
remarquer aussi
même,
que.
pardon, mais même si la personne, elle trouve à ce moment-là que c'est trop tôt, elle te dira, écoute, je comprends pourquoi tu m'en parles, mais moi, je trouve ça un peu trop tôt. Parlons-en un peu plus tard, tu vois. Le sécure, il va dire ça. Donc, à ce moment-là, même si c'est trop tôt, il saura te le dire, tu vois.
Ouais. Et la semaine d'après ou la semaine suivante, il sera dire, ok, il sera prendre une décision assez rapidement. Là où une personne
Exactement.
insécure, elle va toujours mettre le sujet sur le tapis et jamais vouloir en parler, quoi.
Et moi, je voulais rajouter un point, c'est que vous l'avez certainement compris, mais à ce moment-là, j'avais un style d'attachement qu'on appelle anxieux, et donc qui met en place des stratégies d'activation. Et en fait, je voulais aussi m'adresser à toutes ces personnes qui ont des styles d'attachement anxieux ou fuyants, parce que j'en accompagne, c'est rare, moi, j'accompagne personne qui est sécure, hein, par principe. Les sécures, en fait, ils sont très forts, enfin ils sont souvent en couple en fait. Ben, on peut, c'est pas gravé dans le marbre, son style d'attachement. Ça évolue au fil du temps, ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, si vous rencontrez une personne sécure en face de vous, ça peut aussi vous faire tendre vers un profil sécure, quoi.
Complètement, c'est
Et c'est pour
les
ça,
moyens pour y arriver, ouais.
exactement. Donc c'est pour ça, et souvent quand il y a des gens qui me disent, ah, mais j'ai un profil de style, un style d'attachement anxieux ou fuyant, ça veut dire que je vais jamais arriver à trouver. Non, non, pas du tout. Déjà, ça se change. Et puis surtout, il faut bien se dire qu'il faut se concentrer sur des profils type sécure. Petit problème, les profils type sécure, par moment, ce n'est pas ceux qui vont forcément plaire. Je m'adresse plus aux femmes là, mais c'est vrai que souvent, quand même, le fuyant peut. J'ai le mini anecdote, j'ai un cas d'un client en ce moment qui est à peu près notre âge. Il fait des rencontres avec deux femmes. Les deux, il les kiffe. Une qui est fuyante, une qui est sécure.
Ok.
Bah, celle qui veut revoir, c'est la fuyante.
Ouais.
Et la sécure, quand elle lui a dit, écoute, moi, je me vois bien aller plus loin, il avait envie de partir.
Bah, c'est c'est terrible, hein, mais il faut déjà bien comprendre son style d'attachement, savoir la personne qui de l'autre côté qui est vraiment pas faite pour nous. Si vous êtes anxieux, avoir un client, ça serait la pire des choses.
Et c'est là où c'est trop puissant parce que lui, c'est un homme, un profil assez analytique. Il a grave kiffé les styles d'attachement. Et donc là, on a analysé ça. Lui, il a un style d'attachement qui est plutôt anxieux. On a analysé ça ensemble. Et du coup, il a réussi à prendre du recul et à se dire, non, mais ouais, en fait, je vois exactement ce que je suis en train de mettre en place, prendre du recul là-dessus et se dire, mais en
Je
fait,
vois.
c'est la bonne, c'est la sécure, quoi. C'est celle qui, c'est pas celle qui veut pas me voir ou ou je dois mettre en place des stratégies de ouf pour la voir, quoi.
Ouais, complètement. Super intéressant. Mais en
Ouais,
tout
c'était
cas,
trop cool.
juste pour dire, moi j'accompagne des femmes qui sont sécures aussi. Et il faut
Ah ouais?
savoir que, ouais, je pense qu'on a aussi une valeur ajoutée parce qu'il y a des gens sécures qui ont du mal avec la rencontre en ligne. Et déjà, rien que sur les accompagner sur le pragmatisme de la rencontre en ligne à mettre en place au début, le cadre, les petites stratégies, mais juste pour bien allouer son capital émotionnel, je pense que ça, c'est utile pour n'importe quel style de personne. Surtout quand on est quelqu'un qui a accompli pas mal de choses dans sa vie et qu'on veut aussi trouver quelqu'un qui a un profil assez haut du panier, on va dire. Des fois, on peut aussi aider ces personnes-là à trouver des beaux profils.
C'est ouais, tu as totalement raison. J'ai rien à rajouter parce que je suis entièrement d'accord.
Merci.
Bah écoute, en tout cas, moi j'ai grave kiffé.
Ouais, super conversation.
J'espère que vous aussi, ceux qui nous écoutez, si ça vous plaît, si ça vous a plu, dites-le nous par message, par email ou peu importe, parce
Laissez-le
que
nous dans les commentaires aussi, n'hésitez pas.
voilà, exactement, parce que on a peut-être prévu de continuer ce format si ça vous plaît. Et en fait, on en a dans notre besace des centaines d'anecdotes encore, qui sont à la fois sur des personnes qu'on accompagne, mais aussi sur nous. Donc voilà, pour Clément, lâcher des pouces bleus, comme on dit sur YouTube, ou des commentaires. Et pour moi, bah, sur Spotify, il n'y a pas de vous likez le truc ou bien vous m'envoyez un WhatsApp, quoi.
Ouais. Et Antoine, les gens, ils peuvent te contacter s'ils veulent te contacter
Alors,
directement.
moi, ils peuvent me contacter. Alors, ils peuvent se rendre sur le site www.doctorlove, comme Dr Love, Docteur en français et Love en anglais, .co. Voilà, ou bien, parce que les personnes qui vont écouter ce podcast ou ta vidéo, au pire, sinon, s'ils veulent les coordonnées, ils peuvent te demander ou bien se rendre sur le site. Et toi, Clément?
Alors, la meilleure des choses à faire, c'est vous avez juste à taper Clément Langlois dans la barre de recherche Google. Et normalement, en premier, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Vous allez découvrir, si vous découvrez ce contenu, vous avez certainement déjà le lien de ma chaîne YouTube, si vous le découvrez sur YouTube. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez passer mon test, qui sera dans le lien, en description, pour savoir où vous vous situez dans la rencontre. Et ça vous donnera un meilleur idée de ce que vous devez encore mettre en place pour trouver la bonne personne.
Bah écoutez, super. Et ça me fait penser que je peux aussi préciser que je crois que c'est pareil pour toi d'ailleurs. Mais si vous voulez discuter, moi j'offre aussi 30 minutes de discussion gratuite. Je pense que tu fais
Ouais, à la fin
pareil
du
dans un fond.
test.
Voilà.
À la
Bon,
fin
bah
du test,
écoute.
pareil, on peut analyser votre profil de rencontre et voir où vous en êtes et avoir cette petite discussion pour comprendre comment on pourrait avancer ensemble.
Que ce soit avec Clément, avec moi, je vous conseille vraiment de vous servir de ces 30 000, enfin de ce temps gratuit parce que. Il y a souvent des vertus, ils sont insoupçonnés. Voilà, il faut pas avoir peur. Enfin, je dis pas que vous avez peur, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont soit honte, soit peur de prendre ce type de rendez-vous. Il faut mettre ses émotions de côté, être rationnel.
Ouais, complètement. L'amour n'est pas loin.
Exactement. Bon, écoute,
Allez.
merci beaucoup Clément, et puis peut-être à la prochaine.
Bah ouais, complètement. Je serais ravi de refaire un épisode sur ces sujets-là. Avec notre anecdote.
Pareil.
Magnifique.
Pareillement.
Allez.
Allez, à la prochaine.
Ciao,
Ciao.
ciao. Bye.